Et si on ouvrait la parole de Dieu ? Je n'ose pas vous demander si vous avez vos Bibles, c'est tellement évident. Et la réponse, je la connais. Est-ce qu'on peut ouvrir dans le livre des Proverbes, le chapitre 6, et juste nous arrêter sur quelques versets qu'a écrit en son temps le grand roi Salomon ? Proverbes chapitre 6 et le verset 6. On va lire du verset 6 jusqu'au verset 8, nul besoin d'aller plus loin pour l'instant. Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8, je vous laisse le temps de pouvoir chercher. Proverbes chapitre 6, verset 6, et nous lisons ensemble. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. Il n'y a pas plus clair que cela. Souvent, pour faire un parallèle, souvent Jésus a pris l'exemple de choses humbles et petites pour parler au cœur même de ses disciples. Quelquefois, il a utilisé ce petit grain de moutarde, l'une des plus petites semences qu'on retrouve sur la terre, pour parler du royaume des cieux. Autre part, il va parler du lys des champs, petite fleur discrète, mais très belle. Et puis, il va même faire mention des petits passereaux, les moineaux. Ce sont toutes des choses qui passent presque inaperçues de par leur petitesse, mais qui, quelque part, peuvent nous transmettre de grandes leçons spirituelles. Et c'est ce que fait justement le roi Salomon au travers de ce texte. Salomon, l'homme le plus sage au monde, nous invite à aller à la rencontre d'un tout petit insecte. Je veux parler, et nous l'avons lu ensemble, de la fourmi. Ça me fait rire, quand j'ai préparé ce message, j'ai pensé à ma deuxième fille, vous la connaissez tous, Johanna. Fort de ses 2 ans, puisqu'hier elle a eu, pour la petite histoire, 2 ans, elle n'a pas encore le langage facile et puis elle est en apprentissage de la parole. Et quand elle voit une petite fourmi, elle dit « Papa, ami, ami !» Alors au départ, j'ai pas trop bien compris. J'ai dit « Fourmi, tu veux dire ?»« Ami, ami !» Non, non, c'est une fourmi, répète, fourmi. Et elle dit « Ami !» J'ai dit « Fourmi, ami !» Oui, avec les enfants, quelquefois, il ne faut pas trop insister, hein, surtout avec Johanna. Mais en tout cas, fort de cette petite anecdote, je dirais que nos amis, les fourmis, veulent nous enseigner ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir, au final, et plus précisément, plus exactement, permettre à Dieu de nous instruire, de nous enseigner au travers de cette minuscule créature, la fourmi. Est-ce que déjà vous avez fait attention quand on lit ce merveilleux passage dans Proverbes chapitre 6, verset 6, les verbes conjugués à l'impératif que Salomon a utilisé, va, considère et devient. Et d'ailleurs, ça a été le titre de mon message que j'ai choisi, va, considère et devient. Et Salomon nous invite à aller au-devant de la fourmi, de considérer ses voies, afin en retour de devenir sage. On le sait tous, la fourmi, elle n'a pas l'intelligence pour réfléchir. Mais Dieu l'a dotée de certains instincts, certains comportements qui peuvent encore ce matin nous instruire. Alors Salomon, il dit, va vers la fourmi. Et il faut comprendre la démarche. Pour venir au devant d'une fourmi, reconnaissez qu'il nous faut un petit peu nous humilier. Ou non. Ne serait-ce que pour se baisser. Je n'ai pas voulu prendre une fourmi pour vous montrer un exemple. Vous ne la verriez pas. Mais s'il la laissait là au sol, il faut s'accroupir, s'abaisser. C'est pour nous l'image de pouvoir être assez humble pour accepter d'être ce matin enseigné par une toute petite fourmi. On dit que ça passe inaperçu, c'est insignifiant. Pas tant que ça. La fourmi, on la retrouve sur toute la surface de la Terre. À part peut-être au pôle Nord ou au pôle sud, et on va dire quelques îles éparses. Mais à part ça, la fourmi, on la trouve partout, même dans nos maisons, c'est pas vrai? Et puis, les scientifiques ont voulu à un moment donné essayer de savoir il y a combien de fourmis sur toute la surface de la Terre. Alors accrochez-vous, vous êtes assis. 10 millions de milliards de fourmis sur Terre. C'est un exemple qui finalement qui est devant nos yeux et qui passe quelquefois inaperçu. Combien de fourmis on a écrasées ? Bien sûr, je précise, sans faire exprès. Mais c'est cette petite chose toute humble que le Seigneur veut nous apporter ce matin, aux portes de notre cœur. Va vers la fourmi. Salomon nous invite à aller au-devant de la fourmi, d'en observer un petit peu bien les comportements, les attitudes, afin en retour que nous puissions nous appliquer à bien être davantage sages. Quand on médite sur le texte d'introduction qu'on a lu, on peut peut-être relever trois vérités concernant ce qui peut caractériser la fourmi. Je me suis cantonné à trois, on aurait pu aller plus loin, mais je pense que c'est suffisant pour ce matin. Premièrement, et vous allez être d'accord avec moi, on peut dire que la fourmi, elle est travailleuse. Dans bien des cultures, la fourmi est considérée comme un symbole du travail. La fourmi, elle est diligente, elle est active. Mettez une fourmi là, vous allez voir, elle est presque affairée à faire je ne sais quoi. Rares sont les fois où on voit la fourmi faire la grève. Rares sont les fois où on la voit se plaindre du travail. Elle prend quelquefois des charges qui dépassent de plusieurs fois leur poids. Et on le voit au verset 7. Salomon, qu'est-ce qu'il va dire ? Proverbe chapitre 6, verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Pourtant, elle va s'affairer à travailler sans relâche pour elle et ses congénères. En fait, et je l'ai mis sur mes notes, la fourmi, c'est une fourmi travailleuse. C'est une fourmi qui est une travailleuse libre et volontaire. Elle n'a personne sur son dos. C'est volontairement qu'elle le fait. Et je l'ai dit tout à l'heure, Dieu l'a créée ainsi, il lui a donné ses instincts, ses réflexes. Elle ne calcule pas, elle est programmée pour, elle fait ces choses. C'est une travailleuse libre et volontaire. Et je crois que c'est de cette manière que nous devons travailler pour Dieu notre Père. Certainement, contrairement à la fourmi, nous avons, nous, bien sûr, un maître au-dessus de nous, un chef. Et quel chef, quel maître ? C'est le Seigneur Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais croyez-moi, ce maître, il est le meilleur que l'on puisse avoir. C'est pas vrai ou pas ? Et ce maître, je crois, et j'en suis pleinement persuadé, ce maître désire que nous travaillions pour lui d'une manière volontaire, sans tristesse, sans contrainte, mais au contraire avec beaucoup de zèle. Et surtout beaucoup de joie. J'aime beaucoup ce passage dans le psaume au chapitre 100 et le verset 2. Ce passage qui dit « Servez l'Éternel avec plainte. » Qui a dit « Alléluia » Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et quelque part, quand on a compris qui nous servons, frères et sœurs, on ne peut que se réjouir du grand privilège que nous avons de pouvoir le servir. Et servir, c'est quoi ? C'est pas forcément être dans une activité dans notre église locale. Servir Dieu, c'est ce matin ce que vous avez fait, ce que nous avons fait, ouvrir la bouche et louer, adorer le Seigneur. D'ailleurs, c'est le plus grand et le premier service que Dieu attend. Et il nous attend dans ce service. Servir Dieu, c'est bien sûr mettre la parole de Dieu en pratique, c'est aimer son prochain, c'est lui tendre peut-être le verre d'eau, c'est parce qu'il pleut, mon frère, ma soeur, je vais être accompagné chez toi tout à l'heure. Servir Dieu, il y a plusieurs façons de le faire et le Seigneur attend que nous puissions le faire toujours et encore avec joie. C'est une grâce de pouvoir servir Dieu. Nous en avons l'occasion. Les gens du monde ne peuvent le faire. C'est un honneur. Et quand on sait en plus de cela que cet honneur sera par la suite récompensé, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et Dieu n'a qu'un seul désir, c'est de pouvoir nous bénir et nous honorer devant tous la cohorte des anges qui seront là présents et qui feront courbette devant nous parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Que notre service pour Dieu soit toujours l'expression de notre amour. C'est ça qui va nous motiver. C'est ça qui va nous donner à concurrencer la fourmi et même la dépasser dans notre zèle, dans notre désir de pouvoir servir la cause du royaume des cieux. Voilà un premier point. La fourmi, elle est travailleuse. On peut peut-être relever une deuxième vérité concernant le caractère de la fourmi et qui découle non seulement de ce premier point, la fourmi est travailleuse, mais aussi que l'on retrouve dans ce texte d'introduction. Si la fourmi, elle est travailleuse, c'est parce que quelque part, elle n'est pas paresseuse. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen, mais il n'y en a pas un seul. Serait-ce par paresse ? La fourmi n'est pas paresseuse. Et c'est pour cela que j'ai fait exprès tout à l'heure de ne pas le citer, mais Salomon, quand il a dit au verset 6, « Va vers la fourmi paresseux », il cible bien son exhortation et il invite l'homme ou la femme paresseuse à pouvoir considérer les voies de la fourmi et finalement, à son tour, à devenir sage. Comment se définit un paresseux ? Le paresseux, c'est une personne qui n'aime pas le travail. Il n'aime pas le travail. Et qui, par conséquent, évite l'action et l'effort. Et quand il fait l'effort, mais... Le paresseux, c'est celui qui raisonne en lui-même et qui dit « Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ?» Quel contraste avec ce qu'on a entendu au travers du don spirituel tout à l'heure. Dieu qui nous dit « Ne reporte pas ce que tu es en mesure de faire aujourd'hui. » Le paresseux, c'est un flâneur, un nonchalant. C'est un fainéant. Et j'avais dit une fois que le mot fainéant est composé de deux mots. Et vous les avez soupçonnés, ces deux mots. C'est le verbe faire et le mot néant. Faire, néant. Ne rien faire. En parlant d'animaux, puisqu'on est à étudier le comportement de la fourmi, il y a en Amérique du Sud un mammifère que l'on appelle, à juste titre, le paresseux. Une espèce de primate avec des longues ongles. On se demande s'il prend le temps de pouvoir couper ses ongles. Mais il a une telle lenteur. Moi qui aime les reportages animaliers, quand il faut regarder le reportage qui concerne cet animal, on a le temps de, j'ai envie de dire, comme un bon Marseillais, on a le temps de mourir. Tellement les actions sont lentes. Juste en le regardant vivre, vous perdez votre temps précieux. Le paresseux est quelqu'un d'éternellement frustré. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Il en a des objectifs. Ah, je vais me lever, je vais faire ceci, cela. Mais il n'arrive pas à venir à bout. Et c'est pour ça qu'en retour, il en est pleinement frustré. Le paresseux n'exploite pas le temps qui passe et qui est pourtant un bien précieux. Frères et sœurs, si on a un bien précieux, c'est le temps qui passe. Et je le disais dernièrement, ne laissez jamais quiconque vous voler votre temps. On se dit souvent, on le dit souvent, on n'a qu'une vie. Et quelquefois, on ne se rend pas compte. Et le temps passe sur nous, etc. On fait un volte-face et on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Que de temps perdu ! Et c'est pour cela que quelque part, Salomon, après avoir encouragé le paresseux à aller au-devant de la fourmi, à considérer ses voies et devenir sage, il va comme apostropher à nouveau le paresseux par amour, certainement, pour qu'il puisse sortir de ce piège qu'est la paresse. Il va dire, Proverbe chapitre 6 au verset 9, on le lit ensemble. Proverbe chapitre 6, verset 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et alors, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Non seulement la paresse est un mal qui nous empêche finalement de nous réaliser dans notre vie, mais on le découvre au travers de ce texte, eh bien la paresse finit par nous réduire à la pauvreté et à la disette. Et j'ai envie de rajouter une disette tant physique que spirituelle. Et que Dieu nous garde, frères et sœurs, que Dieu nous garde de tomber dans le piège pernicieux de la paresse. Que Dieu nous aide à combattre la paresse dans nos vies. Cherchons au contraire à ressembler à notre amie la fourmi qui travaille, elle, à engranger la nourriture qui va servir à sa propre subsistance et aussi à celle de ses congénères. Sans relâche, toute l'été, elle va travailler à engranger ce qui va être des réserves pour tout l'hiver. Et je crois que ça, c'est important. Regardez ce qu'il est dit, Proverbes chapitre 6, verset 8. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Vous savez, le travail, par excellence, c'est le moyen qui nous permet de subvenir à notre pain quotidien. Qui a institué le travail ? C'est Dieu. Premier qui a eu cette mission, c'est Adam, quand Dieu lui a demandé de garder le jardin, c'était un travail de le garder et de l'entretenir, de le cultiver, oui. On dit souvent le travail, c'est la santé. C'est une réalité. Mais pour nous, enfants de Dieu, parce que j'ai affaire à des chrétiens ce matin, pour nous, enfants de Dieu, nous sommes invités à travailler pour une nourriture encore beaucoup plus grande, une nourriture encore beaucoup plus glorieuse. C'est une nourriture spirituelle. C'est une nourriture que seul le Seigneur Jésus est en mesure de nous donner. Regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 6 et le verset 27, on va le lire ensemble. Jean chapitre 6, verset 27, c'est ni plus ni moins, c'est les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Et il nous dit quoi ? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ah, j'entends encore des bruits de feuilles, excusez-moi, je vous laisse le temps de pouvoir chercher, c'est tellement important. Il y a une réalité au travers de ce verset 27. Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travailler pour cette nourriture spirituelle. Alors certains pourraient me dire, mais c'est quoi cette nourriture spirituelle ? Comment travailler afin d'obtenir cette nourriture spirituelle ? Eh bien, je dirais premièrement, en entretenant le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, c'est en cela que je vais travailler à obtenir de notre Seigneur Jésus-Christ cette nourriture qui va nourrir mon âme et qui va me permettre d'être fin prêt lorsqu'il reviendra. J'ai besoin de m'entretenir, j'ai besoin de travailler à mon salut. Philippiens chapitre 2 et le verset 12, regardez ce qu'il est écrit. Philippiens chapitre 2, verset 12, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui s'adresse aux chrétiens qui se trouvent à l'église de Philippe et il va dire « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et nous travaillons à notre salut en quoi faisant ? En priant. Nous travaillons à notre salut en méditant la parole de Dieu. Nous travaillons à notre salut en mettant en pratique les commandements de Dieu. Je travaille à mon salut lorsque je me sanctifie jour après jour, lorsque j'extirpe de ma vie tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu et qu'en retour, je développe les fruits de l'esprit. Et je développe également la diligence dans le travail, le zèle que Dieu veut trouver au-dedans de moi. Je travaille à mon salut lorsque je veille à garder précieusement ce salut. Il y a un passage dans la Bible qui dit, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Frères et sœurs, il y a quelque chose de précieux qui est venu habiter notre cœur. Quelque chose que même le diable jalouse et voudrait dérober parce qu'on le connaît par son nom, c'est le voleur qui vient pour dérober, égorger, détruire. Et j'ai besoin, comme vous, vous avez besoin, à pouvoir garder précieusement ce salut, à le chérir. Car un jour, ce salut sera révélé. Un jour, le Seigneur viendra sur les nuées et viendra faire le distinguo entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et je voudrais encore le répéter ce matin, ce salut, nous pouvons le perdre. Comment ça, on peut perdre le salut ? Oui, on peut perdre le salut. Allez demander à Judas s'il n'a pas perdu son salut. Allez demander à Démas s'il n'a pas perdu son salut. Combien de personnes qu'on a connues, peut-être dans notre entourage, et qui sont non seulement éloignées de Dieu, mais sont retombées dans des travers beaucoup plus profonds. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Et je le dis avec... Et on a eu raison de parler, de chanter de la grâce de Dieu ce matin. C'est par grâce qu'on est debout. On n'est absolument rien. On est semblable à ces fourmis, un peuple sans force, comme il est dit autre part dans le livre des Proverbes. On était sans force face au péché, je disais vendredi soir, et Dieu dans son amour est venu a pris le relais pour nous. Il connaît notre faiblesse. Mais si dans ma faiblesse je crie à Dieu, sa force sera me renouveler, me donner à rester inébranlable face aux attaques de l'ennemi. C'est en Dieu qu'il nous faut puiser la force pour continuer. Vous savez, pour être plus que vainqueur et être fin prêt quand Jésus-Christ reviendra, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et tant que nos yeux sont tournés vers le Seigneur, et on l'a lu tout à l'heure, tournez-vous vers moi, Ésaïe chapitre 45, tournez-vous vers moi et vous aurez la vie. Tu veux la vie ? Dans tous les sens du terme, tourne-toi vers le Seigneur. Reste les yeux figés fixé sur ce Dieu d'amour qui t'aime et qui ne veut pas eh bien, que tu restes pour compte lorsqu'il reviendra. Oui, on peut perdre le salut. Il y a ce passage dans Romains chapitre 8 et le verset 24 qui le dit, je ne sais pas si on peut l'avoir. Oui, la Bible nous dit « car c'est en espérance que nous sommes sauvés ». Il précise, or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? D'une manière effective, d'une manière manifeste, d'une manière visible, ce salut va apparaître à partir du moment où eh bien, nous serons réunis avec le Seigneur Jésus. Et là, eh bien, d'une manière glorieuse, nous serons semblables au Seigneur Jésus et d'éternité en éternité, nous serons en sa présence. Que Dieu soit béni. Comment travailler également afin d'obtenir cette nourriture spirituelle ? Bien sûr, en travaillant eh bien, à notre tour pour le salut des âmes perdues, en témoignant de notre foi en Jésus-Christ autour de nous, comme on l'a fait au travers de ce temps de détente, parce qu'il y a plusieurs façons de témoigner. Lorsqu'on chantait et qu'on était là réunis, je voyais ces gens qui étaient là, des familles entières, s'arrêter et se questionner. Qui sont ces gens au radieux visage ? Qui sont ces gens qui chantent alors que tout montre le contraire ? Quelle lumière peuvent-ils eh bien, avoir dans ce monde si ténébreux ? Avez-vous entendu comme moi hier soir cet attentat sur Paris ? Et sans être un prophète de malheur, ces choses iront qu'en s'empirant, parce que le monde de plus en plus est plongé dans les ténèbres. Mais nous avons la lumière de Dieu au-dedans de nous. Jésus l'a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Et il est important pour nous que nous puissions éclairer, non pas de notre lumière, non pas de nos opinions, de nos a priori, d'éclairer de la lumière de Christ. Et j'éclaire la lumière de Christ quand je reflète le caractère de Christ. Je reflète de la lumière de Christ lorsque je cite la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Les gens ont besoin d'être éclairés. En aimant le prochain comme nous-mêmes, là aussi, je travaille à obtenir cette nourriture qui va me donner en retour à jouir de la vie éternelle. On n'ira pas plus loin. Troisième et dernière vérité concernant le caractère de la fourmi, découlant toujours de ce même texte, on a vu qu'elle est travailleuse et que par voie de conséquence, elle n'est pas paresseuse. Je voudrais quand même souligner un dernier point. La fourmi, elle est également prévoyante. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Regardez au verset 8, je le découvre comme vous. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc, la fourmi est également prévoyante. Elle prépare sa nourriture durant l'été en prévision des mauvais jours de l'hiver. La fable de La Fontaine nous en donne un merveilleux exemple. Est-ce que vous le connaissez ? La cigale et la fourmi. Je me demande même si cet homme, je le soupçonne d'avoir, à un moment donné, ouvert la Bible, au Proverbe chapitre 6, pour s'inspirer de ce texte. Pourtant, la vérité qui se dégage de cette fable est vraiment une réalité. Vous connaissez tous ce récit de la cigale et la fourmi, mais permettez-moi juste de la citer très rapidement, elle est très courte. La cigale ayant chanté toute l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Oh, il y en a qui arrivent même à le réciter. Oh. J'espère que vous savez. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu, merci Seigneur, il a fermé ma bouche. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Et nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » « Vous chantiez ?» J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Cette fourmi, elle n'avait pas trop de sentiments chrétiens. Par contre, notons aussi que la cigale a choisi malheureusement la folie de l'insouciance plutôt que la sagesse de la prévoyance. Et tout cela, quelque part, au péril de sa vie. Et je nous pose la question ce matin. Sommes-nous prévoyants ou sommes-nous insouciants? Sommes-nous prévoyants comme la fourmi ou sommes-nous insouciants comme la cigale? Certaines personnes vivent au jour le jour, à poursuivre peut-être des gains éphémères, fût-il de ce bas monde. Mais à aucun moment ne se soucient du salut de leur âme, ni même où est-ce qu'elles passeront leur éternité. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui fait que, quelque part, on rejoint l'insouciance de la cigale. Jésus lui-même va dire, dans Marc chapitre 8, verset 36, « Que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Moi, je vous ouvre mon cœur. Je préfère mille fois... Je ne peux même pas compter. Je préfère mille fois travailler pour le Seigneur. Que finalement, passer toute ma vie, tout mon temps dans des choses qui restent secondaires. Je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des choses à faire. C'est tellement important. Mais la priorité des priorités pour moi, c'est de pouvoir travailler pour mon Dieu. C'est de pouvoir préparer mon éternité. C'est de pouvoir me soucier un bien de mon éternité. Nous sommes des personnes prévoyantes, justement, si nous nous soucions un bien dès aujourd'hui de notre éternité. En quoi faisant? En nous détournant chaque jour du mal. Pour justement nous tourner, comme ça a été dit en introduction à la Sainte Cène, pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai, qui lui seul est capable de nous accorder la vie. Que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ton temps? T'es-tu posé la question de l'éternité? C'est étonnant, au plus profond de nous-mêmes, il y a ces questions existentielles, d'où je viens, où est-ce que je vais? Mais ça, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu lui-même qui a instauré ces choses et les a placées dans le cœur des hommes. Parce que nous avons dans de nous la pensée de l'éternité. Et il est important que tu te poses la question si réellement Dieu existe ou pas. Il est important que tu te poses la question, enfin, eh bien, qu'est-ce qui se passe après la mort? Parce qu'il y a une réalité. Il est important que tu puisses considérer ce qu'a dit le prophète Amos en son temps. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. En conclusion, que dire? Si ce n'est que l'invitation de Salomon à aller vers la fourmi afin de considérer ses voies, est un moyen finalement que Dieu nous donne, par amour certainement pour nous, afin de nous rendre plus sages. La fourmi, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous a montré qu'elle était une travailleuse volontaire, qu'elle était aussi prévoyante. Et de même, nous chrétiens, eh bien, soyons assez sages, je dis bien assez sages, pour travailler avec zèle pour le royaume de Dieu, loin de toute forme de paresse et en prévision du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste un dernier verset avant de prier le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Frères et sœurs, le meilleur, il est à venir. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, Père éternel, pour cet enseignement et ce petit insecte, Seigneur, que tu as choisi ce matin pour nous instruire, nous enseigner. Donne-nous à pouvoir, Seigneur, en la considérant, choisir de devenir sage, tout comme elle, en travaillant. Et nous voudrions, Seigneur, Père, dépenser notre temps, notre énergie, notre force, à pouvoir servir la meilleure des causes, le royaume des cieux. Seigneur, éloigne de nous toute forme de paresse. Mais comme dit ta parole, aide-nous à racheter le temps. Parce que tu es à la porte. Et tu nous demandes, au plus que jamais, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres pour revêtir, Seigneur, au contraire, ton caractère, ta personne. Seigneur, tu sauras toi-même distinguer ceux et celles qui t'appartiennent de ceux et celles qui ne t'appartiennent pas. Et nous ne voudrions pas être dans la confusion, comme la cigale, mais être prévoyante, comme la fourmi. Donne-nous être sages. Seigneur, comme dit, Seigneur mon Dieu, Moïse dans son psaume, aide-nous, applique nos cœurs. Seigneur, incline nos cœurs. Seigneur Père, à Seigneur chaque jour être sage, à compter nos jours, Seigneur Père éternel, pour que Seigneur Père, nous puissions, Seigneur Père mon Dieu, d'être en honneur et glorifier ton nom. Bénis encore, Seigneur, ton peuple. Et je te prie particulièrement, peut-être pour des personnes qui ne te connaîtraient pas ici en ces lieux. afin qu'il se pose les bonnes questions. Afin, Seigneur, mon Dieu, qu'il crie à toi, qu'il se tourne vers toi, lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Seigneur, fais grâce, sauve, Seigneur, interpelle, donne un désir, Seigneur, profond de pouvoir lire ta parole. Seigneur, Père éternel, c'est toi qui attires. Et je te prie, Seigneur, d'attirer les cœurs, ceux et celles qui ne t'appartiennent pas, ou peut-être des personnes qui se sont refroidies. Ramène-les, Seigneur, dans tes voies, Seigneur, Père, mon Dieu. Oh, aide-nous à rectifier le tir et à marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons, Seigneur, afin que, Seigneur, lorsque tu reviendras, nous soyons tous, Seigneur Père, mon Dieu, fin prêts pour ce départ merveilleux qui nous unira éternellement avec toi. Amen et Amen.